se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Le grand oral des grandes gueules.
Grand oral des GG avec Luc Frémiot. Bonjour, monsieur Frémiot.
Bonjour, monsieur.
Ancien procureur spécialisé dans les violences conjugales. Vous avez exercé à Douai. Vous avez écrit Non-assistance à femme en danger. C'était aux éditions de l'Observatoire. Avant d'écouter, parce que ça fait 15 ans, 20 ans maintenant que vous êtes dans ce combat, que vous alertez, que vous avez tenté vous-même d'être à l'initiative, prendre des solutions à Douai. Vous avez été un des premiers à éloigner d'ailleurs les maris violents. Je voudrais qu'on écoute un témoignage, celui de Laura qui est avec nous. Bonjour Laura. Merci Bonjour. D'être en direct avec nous sur RMC et RMC Story. Je voulais vous faire témoigner pour vous nous racontiez ce qui vous est arrivé avec votre ex-mari violent, Laura, s'il vous plaît.
Alors, j'ai vécu donc 11 ans avec mon ex-mari, avec qui j'ai eu deux enfants qui ont 9 ans et 3 ans. Et après plusieurs scènes de violence allant de l'étranglement au coup de couteau, à être renversé par lui en voiture, aux fractures, différentes fractures, hein, l'os hyoïde par étranglement, sternum fêlé, coup de pied. J'ai essayé de porter plainte plusieurs fois, deux fois au cours des 11 ans, et c'est la troisième fois où on a bien voulu m'entendre, puisque les premières fois, on m'a culpabilisée. Et on m'a fait comprendre que j'allais détruire sa vie, détruire ma famille. La dernière fois, c'était donc en octobre 2020, où là, par contre, j'ai été très bien accueillie par la gendarmerie, où je me suis présentée juste après les violences. Hein, je suis arrivée la tête boursouflée, les vêtements déchirés. Et là, on m'a dit tout de suite, le gendarme m'a regardée, il m'a dit « Je ne vous demande pas si vous allez porter plainte, je vous dis que vous allez porter plainte ». Et ça m'a aidé en fait de m'enlever cette responsabilité là. Et tout de suite, mon ex-mari a été placé en garde à vue.
Oui.
Il a été vu dès le samedi au niveau du tribunal, où il a été placé sous contrôle judiciaire dit renforcé, avec éviction du domicile, interdiction d'entrer en contact avec moi, interdiction de m'approcher, de se présenter au domicile conjugal et à ses abords immédiats. Aucune décision, par contre, n'a été prise concernant nos enfants, sur lesquels il avait donc toujours les droits.
Oui.
Et il a décidé de lui-même de placer sa caravane pour pouvoir habiter à peu près 300 mètres de chez moi. Donc, il passait devant chez moi 4 à 5 fois par jour. Il prenait des photos des voitures qui s'y trouvaient. Il espionnait, il laissait des messages à ma fille sur les portes, des choses comme ça. J'ai rappelé les gendarmes plusieurs fois. On m'a dit, mais madame, il n'y a pas de distance en fait, de noter dans le jugement. Donc, il a le droit d'être à 300 mètres de chez lui, de chez vous. Comment voulez-vous ? Il faut bien qu'il aille quelque part. Et j'ai alerté plusieurs fois, j'ai alerté le CIDFF, j'ai alerté l'AEM qui gère le contrôle judiciaire de monsieur. Et on m'a toujours répondu, oui, mais tant qu'il ne vous approche pas, tout va bien. Il se présentait à l'école de ma fille plusieurs fois par semaine, au niveau de la cantine, puisque la cantine était excentrée des locaux de scolarisation. Et donc là, récemment, il a été jugé donc le 21 pour violence conjugale aggravée.
Le 21
Le 21 mai, là. Il a été jugé il y a une semaine.
Il y a une semaine. Et quelle a été la peine ?
12 mois avec sursis et 1500 euros de dommages et intérêts.
Pour tout ce qu'il a subi.
C'est ça. Et nous sommes passés au juge des affaires familiales il y a un mois maintenant. Puisqu'il n'y avait aucune décision concernant les enfants, donc il avait autant de droits que moi, et il lui a été accordé un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, malgré le fait qu'au moment des vacances d'avril, quand j'ai récupéré mon fils, il avait un coquard à chaque œil, un énorme bleu sur la joue. Je l'ai emmené tout de suite à la gendarmerie et à l'hôpital pour faire constater, et la plainte a été classée sans suite.
Les gendarmes sont déplacés pour entendre, pour auditionner quand même.
Là, c'est sur mon petit qui a 3 ans et demi.
Et oui.
Donc le gendarme m'a appelé il y a 15 jours en me disant « Je suis désolée ». C'est ça, il m'a dit « La plainte a été classée sans suite, je suis vraiment désolée ». Gendarme était vraiment navré.
Laura, donc vous vivez dans la peur ?
Ah ben oui, Là, pour l'instant, j'ai déménagé, je cache mon adresse, mais un jour, il la saura. Il sait déjà que nos enfants sont scolarisés, il connaît la ville de scolarisation, étant donné que j'ai déménagé avant le passage au JAF, ce qui fait que l'éducation nationale a pris contact avec le papa pour mettre en place la nouvelle scolarisation. Donc, il sait dans quelle ville je suis. Je suis titulaire du téléphone grave danger parce que j'ai alerté je ne sais combien de fois en disant il est devant chez moi, qu'est-ce que je fais ? Et au moment où j'ai déménagé et où là il a senti qu'il allait perdre un peu le contrôle, qu'il allait plus savoir où j'étais, j'ai vraiment eu peur et c'est là que j'ai eu le téléphone grave danger. Mais techniquement, là pour l'instant je suis cachée, mais un jour il saura où je suis, tout simplement parce qu'il va passer devant avec notre fille et que notre fille va dire « Ah bah c'est là, c'est notre maison !» Ou il va passer devant, il va reconnaître les vélos, enfin... On ne peut pas rester 100% anonyme à partir du moment où monsieur connaît la commune.
Laura, vous restez avec nous. Luc Frémiot, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Et je rappelle que vous avez été un procureur parmi les premiers à éloigner les maris violents à Douai. On en avait suffisamment parlé dans les médias à l'époque et régulièrement vous aviez alerté sur les procédures qui étaient compliquées, qu'il fallait agir vite, que c'était de la responsabilité des procureurs. Et on a eu encore des féminicides dramatiques avec des failles dans la chaîne judiciaire, hein.
Vous savez, c'est une affaire qui est dramatiquement habituelle. C'est ce que vous avez vécu là, madame. C'est quelque chose que malheureusement un grand nombre de femmes vit au quotidien. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une succession de mesures contradictoires. Il y a d'abord ces plaintes qui sont classées, j'aimerais savoir pourquoi. Parce que certainement les enquêtes ont été mal faites et que le procureur de la République n'a pas forcément poursuivi l'enquête et pris les mesures adéquates. Ensuite, enfin, vous avez une plainte qui est reçue. Là, il semblerait que les choses s'amorcent de manière favorable, puisqu'on va l'éloigner de chez vous. Mmh. Et malheureusement, il manque la petite chose, si vous voulez, qui permet en fait de vous sécuriser. Eh bien, c'est un bracelet, notamment anti-rapprochement, ou bien une interdiction formelle d'être à plus de, je sais pas, de 2 ou 3 kilomètres, même dans la même ville. Ça, c'était possible. C'est pas fait. Alors, vous voyez, c'est sur des détails. On pourrait penser que c'est un petit détail, mais un détail comme celui-ci est extrêmement important, parce qu'effectivement, ça vous insécurise. Vous êtes dans une situation qui est compliquée. Alors, aujourd'hui, vous nous expliquez qu'il y a un juge aux affaires familiales a accepté, une fois encore, eh bien, de confier à un mari violent qu'on prend pour un bon père, alors qu'un mari violent, c'est pas un bon père. On a accepté de lui donner des enfants. C'est tout à fait inacceptable. C'est inacceptable, mais malheureusement, c'est ce qui se passe encore très souvent. Et c'est la raison pour laquelle des témoignages comme le vôtre et des émissions comme la vôtre permettent peut-être de faire progresser les choses. La conscience chez les magistrats n'est pas encore précise sur ce sujet.
Ouais, comment vous l'expliquez, monsieur Frémiot ?
Eh bien, je pense, si vous voulez, qu'ils n'ont pas pris encore conscience de cet enjeu, qui est un enjeu de société. Parce que lorsqu'on travaille aujourd'hui sur les violences faites aux femmes, on travaille pour l'avenir, parce qu'il y a des enfants qui sont présents. Il faut jamais oublier que ces enfants, il y a un tiers qui peut être considéré comme des victimes potentielles, il y aura un tiers qui sera auteur et un tiers résilient. Donc lorsqu'on est face à des situations comme celle-là, il faut prendre les choses à bras-le-corps et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ?
Et le petit garçon de 3 ans là qui revient avec des coquards et des bleus et comment c'est possible ça ?
Alors là, je vois pas comment c'est possible. Est-ce que vous avez constaté cela par un certificat médical ?
Laura ?
Tout à fait, je me suis présentée à l'hôpital de la ville où j'habite. J'ai un certificat médical qui est une attestation de coups et blessures, hein, qui dit exactement l'emplacement des lésions. J'ai été à la gendarmerie immédiatement, mais malheureusement mon fils n'a pas parlé. C'est-à-dire que mon fils il s'est renfermé dans un mutisme. Voilà, et il dira pas ce qui me dérange encore plus. Ce qui me dérange encore plus, c'est qu'à la limite, il m'aurait dit, le père m'aurait fait passer le message comme quoi, il s'est battu avec un autre enfant ou quoi que ce soit.
Il n'a rien.
Admettons. Mais là, la seule réponse que j'ai eue, c'est, il s'est réveillé comme ça. Et il l'a dit devant le juge, il a dit, je ne sais pas, il s'est réveillé comme ça. Pour moi, c'est pas satisfaisant.
Laura, restez avec nous parce monsieur Frémiot, là, on a le cas de Laura qui nous dit quand même, elle vit cachée, elle vit dans la peur. Il y a le cas de ses enfants. Et puis on a ces deux assassinats qu'on a eu en pleine rue à un mois d'intervalle. Mérignac, Hayange. Mérignac, Chaynaise, le mari avait été signalé, il n'avait pas le droit d'approcher. Il y avait eu plainte. Malheureusement, les bracelets les bracelets éloignement n'étaient pas en place. Elle a été tuée. Et tout le quartier le savait, hein, ça avait été signalé, etc. Hayange. à Yange la semaine dernière, cette femme qui avait signalé, fait une main courante, fait une plainte, l'aménagement de la peine, on lui dit, monsieur, vous pouvez rentrer chez vous. Tout le quartier intervient régulièrement en disant, il y a des cris. Les gendarmes y vont aussi une fois. Le soir, elle sort de chez elle, pas de bol. Dimanche soir, le commissariat est fermé et elle est tuée en pleine rue. On voit qu'il y a quand même, il y a des dysfonctionnements pénaux.
Ah, mais tout à fait. On est face à des chaînes de dysfonctionnement qui ont des sources différentes. C'est malheureusement parfois les services de police ou de gendarmerie qui font pas leur travail, alors que d'autres le font très bien. Vous savez, aujourd'hui, c'est une loterie. C'est ça la réalité. Ça. Si vous tombez sur le bon intervenant, le bon policier, le bon gendarme, le bon procureur, ça va marcher. Mais il suffit que cette chaîne, justement, cette chaîne pénale soit parasitée par quelqu'un qui prend pas ses responsabilités.
Ou qui est débordé.
Ou qui est débordé, ou qui ne fait pas ce qu'il faut faire. Ouais. Vous savez, c'est aussi une question de bon sens. Lorsqu'on est face, effectivement, à une situation comme celle que décrit Laura, cette dame, ouais. Manifestement, il faut prendre le taureau par les cornes. Là, vous avez encore une possibilité, madame, c'est de saisir le procureur général. Envoyez un courrier au procureur général pour expliquer votre affaire. D'accord. Il a la possibilité, lui, de revenir sur la décision du procureur de la République. Le problème qu'il peut y avoir, moi je connais pas votre dossier donc c'est difficile d'en parler, c'est qu'il y a peut-être pas, si vous voulez, de preuves suffisantes pour conduire à l'imputation de votre mari, votre ex-compagnon. C'est ça la difficulté. On est souvent aussi sur des sujets de cette nature. C'est-à-dire qu'émotionnellement, la victime est persuadée effectivement d'avoir tous les éléments parce qu'elle, elle a vécu évidemment la situation. Mais lorsqu'il s'agit d'apporter des éléments de preuves suffisants, ben parfois on les a pas. Et ça, ça crée effectivement.
Allez-y, Laura, pardon.
Je tiens à préciser que quand même, au moment où mon ex-mari a été entendu par les gendarmes, il a reconnu l'intégralité des faits, c'est-à-dire le coup de couteau, m'avoir renversé avec sa voiture. Il a dit que plusieurs fois, si notre fille n'était pas intervenue, il m'aurait tué. Il le dit, hein. Il a dit, si notre fille n'était pas intervenue, je pense que je l'aurais tué. Il l'a tout reconnu, il a même reconnu plus que ce que moi j'avais dit dans la plainte.
Mais qu'est-ce que...
Vas-y, Mourad.
Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'il n'accepte pas la séparation? Il accepte pas que vous puissiez refaire votre vie. Il accepte pas que vous ayez les deux enfants chez vous. Et où est la solution?
C'est ça le problème.
Il accepte pas que je puisse avoir une vie. Mais clairement, lui, ce qu'il veut, c'est aux yeux de la société pouvoir dire je suis un bon père. Regardez, j'ai fait des erreurs, mais je suis un bon père. Ce qu'il a dit au tribunal vendredi, c'est j'ai changé, je suis un nouvel homme. Bon, ok, mais ce discours, je l'ai entendu pendant 11 ans. Et là, ce qu'il veut, voilà, c'est pouvoir dire, regardez, je m'occupe de mes enfants, tatatatata. Il faut savoir qu'au 1er janvier, il avait les enfants. Il me les a redéposés en mon absence dans mon jardin par un degré sous la pluie. Il a eu un coup de colère, il les a jetés dans le jardin.
Ouais, donc là, on a un dossier qui est quand même assez étayé. Et pourtant, on sort d'un Grenelle.
Et il a tout reconnu.
Oui, sort d'un Grenelle, Laura et Monsieur Frémont. On sort d'un Grenelle contre les violences faites aux femmes, ou avec prise de conscience, mise en place d'un numéro d'urgence, le téléphone grand danger dont Laura est munie aujourd'hui, Luc Frémont. Pourtant, on se dit ça avance, ça réagit.
Ça réagit, si vous voulez, sur le plan de l'opinion publique, parce qu'effectivement. Aujourd'hui, l'opinion publique n'est plus sans ignorer ce qu'il se passe. Et évidemment, l'opinion publique a un poids important, si vous voulez, sur les institutions. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on nous promet un certain nombre de mesures, sur lesquelles je me suis battu, d'ailleurs, pour les obtenir avant le Grenelle, parce que j'étais très mécontent de la situation de l'époque. Mais ces mesures n'arrivent pas.
Lesquelles?
Eh bien, il y a toute une série d'éléments. Par exemple, la création de centres d'encadrement pour les auteurs. Moi, je reviens toujours sur ce sujet-là, parce que si vous ne travaillez pas sur les causes de la violence, ça ne servira à rien. C'est-à-dire, si on les condamne 12 mois avec sursis, ils ressortent, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien changé. Il faut donc les retirer du domicile conjugal, les mettre dans ces centres aux mains de psychiatres et de psychologues. Je l'ai fait, moi, en 2003.
À Douai.
Je l'ai fait de 2003 à 2010. J'ai baissé la récidive à 6% sur mon ressort. À l'époque du Grenelle, on est à 50% de récidive sur le plan national.
Et pourquoi est-ce que, fort de cette expérience locale, on ne l'applique pas de manière nationale?
Il y a plusieurs raisons. Alors, il y a eu une époque, il y a eu un blocage de toute une série de ministres concernés, notamment à l'époque Madame Schiappa, qui disait « je ne veux pas mettre de l'argent dans des foyers pour des hommes ». Il ne s'agit pas de foyer pour les hommes.
C'est pourtant la source du problème.
Pour au contraire les amener à changer.
Oui.
Bon, alors elle a changé d'avis à la suite de Grenelle parce que le Premier ministre à l'époque a effectivement repris les choses en main, a déclaré effectivement que c'était une voie sur laquelle il fallait s'engager. Elle est allée à Arras, Madame Schiappa, voir la maison des hommes violents qu'une de mes substituts de l'époque avait créée. Et ils se sont rendus compte que c'était une bonne chose. Donc, ça a été décidé. Mais aujourd'hui, on en est où? On ne sait pas qui fait quoi. Qui est-ce qui est à la manœuvre? C'est Maître Dupont-Moretti. C'est le garde des Sceaux. Je le connais très bien, c'est pour ça. C'est le garde des Sceaux. C'est Madame Moreno? C'est Madame Schiappa. On ne sait pas qui fait
c'est
quoi.
C'est ministre de l'Intérieur. C'est
voilà.
On sait pas.
Oui, oui. Il y a une espèce de brouillard absolu. En fait, ce qui amène la résultante suivante, c'est que personne ne sait qui fait quoi.
Personne
et on n'avance pas.
Responsabilité. En attendant, il se passe des choses comme ça, quoi.
Oui. Mais regardons bien ce qui s'est passé à Hayange, où il y a eu le dépôt de plainte, qui normalement doit être transmis automatiquement de la police à la justice.
Tout à fait.
C'est même l'automaticité maintenant. Et même si la personne retire sa plainte, il y a quand même obligation pour que la plainte remonte. C'est resté, pardonnez-moi l'expression, c'est resté tanké, bloqué.
Et tout à fait.
Au commissariat, ce n'est pas remonté jusqu'au parquet. Pourquoi ?
Eh bien là encore, si vous voulez, c'est un dysfonctionnement majeur. D'abord, il y a un premier point. Il faut savoir que l'article 15.3 du Code de procédure pénale oblige, vous m'entendez bien, les fonctionnaires de police et les gendarmes à prendre une plainte. Ils n'ont pas le droit de refuser une plainte. C'est le rôle du parquet. Là, dans cette hypothèse-là, vous savez, il faut être prudent parce qu'on n'a pas de résultat de l'inspection encore.
Oui, oui.
Mais si effectivement les services de police n'ont pas transmis cette plainte, eh bien ça, c'est une faute grave, c'est une faute qui doit entraîner des sanctions disciplinaires.
De qui ? Du policier ou du...
Bien sûr,
d'accord. Parce que Mérignac, la commission avait prouvé qu'il y avait eu des dysfonctionnements. Il y en a une deuxième qui doit maintenant les confirmer. Est-ce qu'il y aura des sanctions derrière ça,
Écoutez, s'il n'y a pas de sanctions derrière, il n'y a jamais rien qui va changer.
Oui, c'est ça.
C'est ça la difficulté. Vous savez, juste avant le Grenelle, moi j'ai mené une grande campagne médiatique justement contre la situation de l'époque. Et j'ai demandé à Mme Belloubet, à la suite d'une pétition, d'organiser une inspection des services judiciaires sur les différents féminicides qu'il y avait eu. Parce que vous savez, lorsqu'il y a des féminicides, ça n'arrive pas comme ça. C'est toujours, avant, il y a toujours des violences faites aux femmes. Il y a toujours eu des violences d'avant, il y a toujours eu des plaintes, il y a toujours eu des mains courantes qui sont prohibées entre nous. Sont prohibées, on continue à les prendre. Et je voulais donc qu'on ait un état précis de la situation. Il y a eu effectivement une inspection. Et l'inspection a corroboré point par point mon constat. Ils ont constaté qu'il y avait parfois des services de police et de gendarmerie qui classaient d'eux-mêmes, ab initio, les procédures sans les transmettre au parquet. Dans l'affaire de Hayange, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, on va le voir à l'inspection, mais d'après ce que l'on m'a dit, il y a eu un intervenant au commissariat, qui est un intervenant social, un médiateur social, qui a essayé de réunir cette victime qui vit dans la peur et la violence avec son agresseur à la même table pour essayer de les
chiens qui te mordent,
de la réconcilier.
L'intervenant social a dit j'ai eu madame au téléphone, elle ne s'est pas opposée au retour de monsieur.
Mais évidemment, mais la peur. Elle a peur. Quand on voit effectivement qu'on vous propose une médiation avec l'auteur de la personne qui vous fait peur, qui vous frappe, qui vous menace, évidemment.
Laura, vous vouliez réagir.
En fait, je trouve ça absolument hallucinant. Hein. C'est le parcours du combattant au quotidien pour prouver qu'on est victime et qu'on n'est pas des menteuses. Moi, le combat, ça a été au niveau des médecins, parce que j'ai demandé à ce que ma fille soit prise en charge d'un point de vue psy au niveau du CMPP. Et le papa, dans un premier temps, s'est opposé à la prise en charge. Hein. Il a présenté un refus de soins. Et ensuite, ça a été au niveau de l'école, quoi. C'est au niveau de l'école quand on me dit votre fille, elle va pas bien. Je dis oui, elle vit en ce moment une situation qui est très compliquée. Et quand j'ai déménagé et je dis voilà, il faut surtout pas donner notre adresse, etc. Qu'on me répond oui, mais madame, vous savez, c'est quand même son père. Les affaires d'adultes, ce sont les affaires d'adultes. On parle pas d'affaires d'adultes là. On parle de crime, enfin on parle de quelque chose qui aurait pu me tuer. Et de quelque chose où, enfin, un jour ma fille a pris un yaourt en vol dans le visage parce que son père était alcoolisé et qu'Athénaïs lui avait dit je vais vider les bouteilles. Elle avait 8 ans et elle a pris un yaourt ouvert en plein visage. Et à quel moment on peut estimer que ce monsieur est un bon père? J'ai mis du temps à réagir, certes, mais maintenant, comme je dis là en ce moment, là où je me bats, c'est aussi pour faire comprendre que faire le choix de partir, c'est devoir se justifier sur pourquoi on est resté.
Est-ce que vous avez fait appel de la décision du juge aux affaires familiales ?
Mon avocate, au niveau du juge aux affaires familiales, pour l'instant, il y a une enquête sociale qui a été demandée. Puisque moi, je refuse que ça reste tel quel et que les enfants aillent chez leur papa. Papa qui s'est remis en couple avec une jeune femme qui a écrit un témoignage comme quoi il n'est ni violent ni alcoolique.
Ça peut venir.
Et lui, au niveau du juge, a dit qu'il la connaît. Voilà, il la connaît depuis 2-3 mois apparemment. Et elle a 3 enfants, donc j'avoue, on va dire que c'est pas mes affaires, mais je suis quand même un peu inquiète pour elle.
Est-ce qu'il va être un bon père ?
Ah non.
Ah ben voilà.
Ah non. Déjà
ça
devant,
commencer
devant
par ça,
le
déjà pour être bon père.
Il a dit devant le juge aux affaires familiales, il a dit mot pour mot, si vraiment je suis obligé de payer quelque chose, 50 euros par enfant, c'est déjà beaucoup.
Ah ben c'est trop. Laura, je vous remercie de ce témoignage. Merci. Tout ce qu'on peut vous souhaiter de manière un peu formelle, selon la formule habituelle, c'est bon courage à vous. Et n'hésitez pas à revenir même vers nous, vers les GG, bon vers courage. Les grandes gueules, s'il y a manière de faire avancer les choses, faire avancer les dossiers, comme avec vous, monsieur Frémiot. Merci d'être venu aussi parler de cette problématique et de ce qui n'avance pas encore aujourd'hui dans la chaîne judiciaire. Merci.